Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de juillet 2023. Et je voulais rendre hommage, un hommage vibrant, à Henri Bonnet, dont la voix s'est éteinte en juin 2023. J'étais en voyage, donc je n'ai pas pu assister à ses funérailles. Mais je tenais à lui rendre hommage parce que c'est avec lui que j'ai pu visiter les grands poètes et écrivains du 19e siècle dont il était le spécialiste. Voilà, je voulais encore le remercier pour tout ce que nous avons fait ensemble. Bien des mystères et de la poésie seront éclaircis au cours de cette émission grâce à l'intervention de grands auteurs comme Henri Leuvenbruck, Gwenaëlle Abolivier sur la Loire et sur les traces de Julien Gracq, avec Fred Vargas et son nouveau roman sur la dalle, avec Peter May et un chemin sans partant qui nous entraîne vraiment très très loin, avec la dernière échappée de Léa Frédéval, est terminée par un essai fondamental sur Blaise Pascal par Pierre Manon. Alors, le premier roman, Les disparus de Blackmore, c'est de Henri Leuvenbruck aux éditions Ixo. Il est né en 1972 à Paris et a publié les trois premiers volumes d'une grande série qui se déroule au cœur de la Révolution française et qui connut un grand succès. Avec ce nouveau roman, il part de notre époque pour remonter dans le temps. C'est ce que j'ai aimé chez lui. Nous sommes au début en octobre 1925, à Blackmore. Blackmore, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une île coupée du monde au large de Guernesey. Donc on se rapproche là de Victor Hugo. Au large de Guernesey. Meurtre et disparition sèment la terreur. Une carte est jointe à cette édition, ce qui nous permet de suivre les péripéties de nos personnages. Alors que la police piétine, Lorraine Chapelle, première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris, est appelée en renfort par un lord qui habite le château et dont la petite fille a disparu. Et donc, elle fait appel à cette Lorraine Chapelle. Ce lord a été en rapport avec sa mère. Voilà pourquoi le lord est bien disposé vis-à-vis de Lorraine Chapelle. Cette cartésienne irréductible, qui aime conduire sa moto, une grosse moto, va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward Pierce, qui est un Britannique spécialisé dans les sciences occultes et qui se présente comme détective de l'étrange. Voilà, donc on est bien dans les mystères. Il était ami avec le père Molloy, qui lui a envoyé une lettre urgente avant de disparaître à son tour. Il semblait être sur une piste. Voilà pourquoi Edward Pierce se trouve là aussi, sur cette île. Et c'est donc ensemble qu'ils vont, Lorraine et Edward, c'est donc ensemble qu'ils vont apprendre à se connaître, à se faire confiance même si très différents de mentalité. Ils vont affronter les plus sombres secrets de Black Mort, au statut énigmatique que l'on voit bien sur la carte, au statut énigmatique disséminé sur l'île. Il y a aussi la rumeur d'un culte maléfique qui servirait dans l'ombre et qui aurait fait disparaître ses victimes. Et ce vent lancinant, appelé le murmure des brumes, qui ne cesse jamais. Donc on remonte dans l'Antiquité, on est entre mensonge et confidence. Ce duo improbable devra démêler le vrai du faux dans une course contre la montre diabolique pour sauver le père Molloy, si c'est possible encore. Henri Lovenbruck nous envoûte vraiment dans un thriller palpitant et mystérieux qui est dans la lignée de H.P. Lovecraft ou Agatha Christie. 517 pages, mais que vous lirez avec vraiment grand plaisir. Le deuxième roman, La forme du fleuve, c'est de Gwenaëlle Abolivier, édité par Le Mot et le Reste. Ce récit qui me va droit au cœur, c'est le troisième de Gwenaëlle Abolivier aux éditions Le Mot et le Reste, et il faut le considérer comme une suite, car nous retrouvons toujours son personnage, cette femme écrivain qui aime marcher, qui aime naviguer, qui est même, voilà, elle fait l'écriture et le parcours, c'est la même chose pour elle. Et nous parcourons avec une joie extrême ce troisième récit. Récit qui relate une immersion sur les bords de la Loire à partir de Saint-Florent-le-Vieil. Retenez bien ce nom de Saint-Florent-le-Vieil. Entre Angers et Nantes, dans les coulisses du grand et long fleuve, la Loire est vraiment le grand et long fleuve, celle des îles et des îlots de sable, l'occasion pour Gwenaëlle Abolivier d'observer la façon dont toute cette eau douce, agit sur son imaginaire et de parcourir les territoires de lisière et de marge qui avaient les faveurs de Louis Poirier. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom de Louis Poirier ? C'est alias Julien Gracq, voilà. Elle est en résidence dans la maison qui fut celle de l'écrivain. Et elle sonde aussi ce qui participe au génie du lieu et donne la parole à celles et à ceux qui ont partagé son quotidien. Pour moi, c'est tout simplement merveilleux et je pense que vous serez cette même constatation. Ainsi, la forme du fleuve, qui est la Loire, la forme du fleuve, est à la fois une navigation sur le motif et une descente dans la mémoire du fleuve. On voit tout le parcours de ce fleuve, ainsi qu'une composition de fragments poétiques. Exemple de son style. Là, elle va et plonge dans les eaux claires de l'écriture. Mais cette fois, elle est venue pour raconter et donner voix à la terre. la terre pour ne plus se taire. Voilà, j'ai parlé de fragments poétiques nombreux et documentaires sur l'évolution de ce fleuve, avec aussi le temps, la canicule. Et on est dans les pas d'un des plus grands écrivains français. Face à cette infinie variation de vers, la vie buissonnière, dit-elle, me colonise et inonde mon esprit de ce désir inépuisable de voir et revoir comme un visage aimé, de regarder et d'écouter à nouveau le grand dehors, qui est une région particulière, où les hirondelles, les grandes aigrettes, les cormorans, les canards sauvages, les grèbes, les cygnes chanteurs sont là, sans rien attendre de personne, constamment en mouvement, soulevé par le vent en bourrasque, la vie tout entière qui palpite. Et elle termine par un poème que je vais vous lire, parce que j'ai parlé de mystère et de poésie. Ce matin, la Loire fume ses humeurs. Elle sort d'un sommeil de brume et dévale en respiration rapide. Empanachée, elle reprend sa course sur la mer où s'égayent à présent toutes les âmes qui accompagnent et habitent ce fabuleux courant de vie. Le peuple de l'eau est vaste, et le monde des îles qu'elle nous décrit dans ce récit, le monde des îles l'est tout autant. Dans ce rêve d'eau douce et d'écriture, je poursuis mon voyage et accoste sur un nouveau continent, et je vogue déjà le long des rives du Loirestan. Voilà, je m'arrête là. À vous de lire La forme du fleuve, le mot et le reste, de Gwenaëlle Abolivier. Voilà. Le troisième roman que j'ai choisi, c'est Sur la dalle de Fred Vargas, qui vient d'être publié par Flammarion. Avec ce nouveau roman de Fred Vargas, nous retrouvons avec grand plaisir son commissaire emblématique, Adamsberg, que vous connaissez sans doute si vous connaissez Fred Vargas, qui doit aider la gendarmerie de Combourg à mener une enquête, car il y a eu un meurtre. Et elle semble dépasser cette gendarmerie de Combourg. Et comme j'ai parlé de Combourg, ça vous dit peut-être quelque chose, car c'est une cité dans laquelle a vécu un écrivain célèbre, l'écrivain des mémoires d'outre-tombe. Je veux parler du vicomte François-René de Chateaubriand, qui a bien vécu dans ce château. Et tout se déroule dans ce roman, dans le village de Louviec, non loin de Rennes, et à l'auberge des Deux Écus, l'une des meilleures tables à la ronde, avec une excellente chambre pour lui, le commissaire Adamsberg, qui en fera, cette auberge, son QG. Il a c'est un personnage. Il a des gens qui sont là pour l'entourer, pour l'aider à mener son enquête. Et il y a aussi, ce qui est étrange, un sosie qui s'appelle Jocelyn de Chateaubriand et qui n'est pas famille avec l'illustre écrivain, même si on sait que l'illustre écrivain aimait beaucoup les femmes, donc il aurait pu avoir une descendance inconnue. Mais non. Son incroyable destin pèse sur ses épaules à ce Jocelyn de Chateaubriand, puisqu'il ressemble à son illustre propriétaire du château, le vicomte François-René de Chateaubriand. Et son incroyable destin pèse sur ses épaules tout son poids, parce que chaque fois qu'il vient dans ce restaurant, eh bien on le salue, il faut qu'il fasse un peu de cinéma, même si il n'a pas envie, mais voilà. Et ce Jocelyn de Chateaubriand est une victime toute désignée pour l'assassin. Donc, pendant quelque temps, on va le suspecter. Il y a aussi un boiteux qui s'appelle Gaël et qui réapparaît mystérieusement. Et puis Johan, le restaurateur qui tient un grand rôle en tant que cuisinier excellent, toujours réceptif et prêt à aider le commissaire. Et aussi, ce Johan a une superbe jolie fille, une gamine, qui va un jour disparaître. Pourquoi ? Voilà. Mais il y a aussi dans ce roman, d'où le titre, sur la dalle, il y a un dolmen dont on lui a parlé et qui attire fortement Adamsberg. « Il est bien sur la route du petit pont, » demande-t-il. « À 2 kilomètres après le petit pont, ne te trompe pas. Sur ta gauche, tu ne peux pas le manquer. Il est splendide. Toutes ces pierres sont encore debout. » Ça date de quand, un dolmen ? Environ 4000 ans. Donc, des pierres pénétrées par les siècles. C'est parfait pour moi, dit Adamsberg. Mais parfait pourquoi ? Demande Jean. Et cela servait à quoi, ces dolmens ? Ce sont des monuments funéraires. Des tombes faites de pierres dressées, recouverte par de grandes dalles. J'espère que cela ne te gêne pas. En rien. C'est là que je vais aller m'allonger en hauteur sur la dalle sous le soleil. Et qu'est-ce que tu vas foutre là-dessus ? Je ne sais pas, Jean, je ne sais pas. En fait, c'est en méditant sur cette dalle qu'il parviendra à trouver l'assassin et à sauver une gamine. Voilà, c'est tout ce qui fait toute l'originalité et le style de Fred Vargas. Elle aime mêler l'antique, une antiquité ou autre chose, et l'énigme d'une enquête tragique. Ce livre est de 508 pages, donc vous lui consacrez un long temps de lecture, mais qui vous portera beaucoup de choses. Le quatrième roman, important, puisqu'il fait 543 pages aussi, est un chemin sans pardon de Peter May, qui vient de reparaître au Rouergue. Un chemin sans pardon est une œuvre romanesque terrible, une reprise d'une première édition parue il y a 40 ans, une réédition qui le mérite amplement. Au début, nous sommes à Londres, en décembre 1978. Jack Elliott, Jack Elliott, à peine revenu d'Irlande, où il vient d'exécuter deux hommes de l'IRA, assiste secrètement aux obsèques de sa femme, qu'il n'a plus vue depuis près de 20 ans, lorsqu'il a été condamné par une cour martiale. On découvre dans ce roman le pourquoi l'abbé Vu, les choses comme ça, et dont il s'est tenu responsable d'un massacre inutile. Après sa libération des geôles de l'armée britannique, Elliot, le personnage central de ce livre, est devenu un mercenaire, menant pour d'autres des guerres perdues. Sans se douter que sa fille Lisa, qui lui ressemble beaucoup, l'a aperçue aux obsèques de sa femme, même s'il était secrètement un peu caché par les arbres du cimetière. Elle l'a aperçu et elle l'a, semble-t-il, reconnu, même si sa mère lui disait qu'il n'existait pas ou plus. Et elle ne va pas tarder à découvrir son identité. Elliot va accepter une mission du plus haut risque, commandité par un homme devenu riche. Il doit pour cela exfiltrer d'un camp khmer rouge une famille cambodgienne, une mère et ses deux enfants, une fille qui s'appelle Ni et qui est vraiment une très belle fille, et Oh, le jeune frère, un garçon, son jeune frère, pour un demi-million de dollars. Mais alors qu'Elliot monte un commando avec deux partenaires choisis et expérimentés, dans un Bangkok en Thaïlande, tout d'abord, dans un Bangkok sulfureux, où les choses trappes se multiplient, les trahisons aussi, il y a un personnage maléfique, Turktan, qui va lui procurer des armes à Elliot, mais qui veut aussi sa mort. Et Lisa, parallèlement, décide de tout faire pour le rejoindre, en se tournant vers Blair, une ancienne connaissance de son père, et c'est par lui qu'elle partira à son tour à Bangkok pour le retrouver, malgré toute sa naïveté de très jeune journaliste. Et à son corps défendant, elle va devenir la pièce maîtresse du piège sur le point de se refermer sur son père, parce que elle va s'adresser à Turktan, comme par hasard, qui lui voit justement une raison supplémentaire d'enfermer son père et de le faire mourir. Dans ce roman de jeunesse, Peter Humay livre les figures qui hantent toute son œuvre à venir, avec les héros solitaires, poursuivis par les blessures toujours vives d'un passé qui le torture, la relation entravée et douloureuse d'un père avec sa fille. Lui avait dû savoir qu'il avait une fille, mais il l'a perdue de vue. Et sa fille donc va essayer de le retrouver. La tension entre l'oubli et le pardon. Le pardon, c'est le thème de ce grand roman. Un chemin sans pardon. Et il y a justement deux grands portraits de femmes. La première femme qui a vraiment existé, bon, peut-être pas dans ces circonstances-là, mais qui a quand même existé, c'est ce que Peter May a dit dans sa préface ou dans sa postface, puisqu'il a repris cette édition. Madame Grace, c'est le grand rendez-vous. C'est une visite à Phnom Penh pour le sexe, mais aussi pour fumer les meilleures pipes d'opium. C'est une courtisane superbe, mais qui a été faite grâce à Turktan. Voilà. Turktan, c'est le personnage, je vous l'ai dit, maléfique de ce roman. Et il est riche, il possède beaucoup de choses, des armes, tout ça, mais il tient à conserver la main forte, voilà. Et donc, il a rencontré cette Madame Grace, et puis il a voulu qu'elle soit cette courtisane superbe où tout le monde se retrouve chez elle pour rendez-vous d'affaires ou de commerce. Et c'est à son corps défendant, elle aussi, que cette Madame Grace va piéger Lisa, la fille d'Eliot. Comment, je vous laisse découvrir. Mais grâce à Blair qui reviendra, parce qu'il est soucieux de savoir ce que Lisa est devenue, et elle reviendra, Lisa, traumatisée, elle reviendra à Londres avec Grace, avec Eliot. Parce que Madame Grace devait en faire une courtisane, elle aussi, puisqu'elle était vierge. Un général la voulait dans son lit, voilà. Donc, je vous laisserai découvrir comment ça s'est passé. Et cette Madame Grace, eh bien, à Blair, qui a tué quand même Turktan, alors que Madame Grace va mourir, elle demande à Blair que Lisa lui pardonne. Voilà. Et l'autre portrait de femme aussi, c'est à la fin, sur le Sampan, et le delta du Mekong au Vietnam, que j'ai la chance de connaître. Cette femme s'appelle Seré. C'est la mère des deux enfants et la femme de Yon, le commanditaire. Donc, Eliot va réussir à trouver la mère et la fille d'abord, et la mère veut absolument qu'ils aillent à Phnom Penh pour retrouver le jeune fils qui devait les retrouver là-bas, et donc Eliot va être charmé par cette femme qui était dans les camps comme ça, mais qui a résisté et qui a survécu pour sauver ses deux enfants. Et elle, lorsque son mari retrouve justement les deux enfants, encore étrangers. Elle ne peut lui pardonner de les avoir abandonnés en partant en exil. Voilà. Et elle est partie dans les flots de la mer, sachant ses enfants sains et saufs, avec leur père. Voilà. Tel Lord Jim, Jack Elliot a perdu son âme, mais grâce à ce Ré, il va la retrouver et se racheter d'une faute impardonnable. Au cœur de l'un des régimes les plus meurtriers de l'histoire, le Cambodge, il va retrouver le sens du mot « humanité » et recevoir tout à la fin, presque dans ses bras, sa fille. Voilà. On écoute de la musique, une musique superbe, avec un trompettiste, Roman Leleu, venu à Perona le 30 juin 2023. Je vous en avais parlé. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde à cette soirée à l'auditorium de Perona pour découvrir ce fameux trompettiste Leleu. Et on le découvre dans une musique de Ennio Morricone pour une poignée de dollars. Eh bien voilà, vous avez entendu ce superbe trompettiste Romain Leleu, qui était accompagné par la grande pianiste japonaise Shoko Gamo. Voilà, un grand, grand spectacle. Et là, je pense que vous avez reconnu la musique du film « Pour une poignée de dollars » avec Clint Eastwood, qui a incarné ce mercenaire, voilà, pour une poignée de dollars. Alors, j'ai un cinquième roman que je considère plus modeste que les livres que je vous ai présentés, qui sont vraiment des grands pavés, hein, des pavés faits pour les vacances, justement. Avec Peter May, Un chemin à son pardon, au Rouergue, Fred Vargas sur la dalle, et puis Les disparus de Blackmore de Henri Leuvenbruck, La dernière échappée de Léa Frédéval aux éditions Philippe Ray, qui vient de me parvenir, je le remercie Philippe Ray, est plus modeste, il fait que 202 pages. Mais c'est un coup de cœur, car il dit beaucoup plus de choses qu'on peut penser au départ. La santé fragile de Léopoldine, qui est le personnage principal de cette dernière échappée, conduit ses enfants démunis à la mort de Jacques, son mari, envisager son placement en EHPAD. Mais sa petite fille, Chloé, n'est pas du tout du même avis. Et n'écoutant que l'amour qu'elle porte à sa grand-mère, et avec pour bagage l'innocence aveugle de son jeune âge, elle entraîne sa grand-mère, sa Léo, dans un road trip hasardeux. Elles partent toutes les deux dans une voiture, dans sa voiture. Peut-être cherche-t-elle aussi à fuir son propre chagrin. Camille, le garçon qu'elle aime depuis l'adolescence, vient tout juste de la quitter sans aucune explication. Donc elle se trouve presque traumatisée par ce départ, cet échec. S'engage alors une course contre la fatalité, durant laquelle les deux femmes, depuis deux âges opposés de la vie, Chloé, c'est la jeunesse, Léopoldine, c'est presque la vieillesse, enfin la maladie, parce qu'on arrive à un âge où on n'a plus les mêmes forces pour se mettre debout, pour avancer, pour marcher, se relever, marcher. Donc, depuis les deux âges opposés de la vie, se redécouvrent mutuellement et doivent faire face à leur peur de ne pas pouvoir avancer, et puis pour Chloé, peur de se retrouver toute seule. On découvre qui était vraiment Léopoldine, qui semble, vous allez le découvrir, qui semble être passée à côté d'un autre destin amoureux. Quels souvenirs résisteront à la maladie ? Après une vie consacrée à trois enfants, un mari casanier qu'on n'aimait peut-être pas autant qu'on a voulu le prétendre ou que lui a voulu prétendre, quels secrets risquent de se réveiller et comment Chloé peut-elle retrouver goût à la vie ? Car pour Léopoldine, la naissance de Chloé lui a redonné goût à la vie, et c'est très très bien montré. Et pour elle, est-il encore temps d'écrire un nouveau chapitre de son histoire? Dans ce premier roman d'une profonde sensibilité, raison pour laquelle je vous dis que c'était un coup de cœur, Léa Frédéval raconte une dernière échappée, à la fois mélancolique, oui, le temps est passé, avec ses blessures, et teintée de joie, d'une joie en la vie qui unit Chloé et Léo pour la vie. Voilà. Plein d'espérance, un livre plein d'espérance, avec une fin un peu étrange. Je vous la lis quand même. « Je ne suis pas sûr d'avoir pris la meilleure des décisions, et pourtant c'était la seule possible. J'ai suivi mon intuition, c'est Chloé qui parle, j'ai suivi mon intuition et je n'ai prévenu personne de ce que je m'apprête à faire. Ni mon père, ni mes tantes, encore moins Léopoldine. Au téléphone, elle a téléphoné à quelqu'un et une voix a balbutié. Venez. Oui, c'est d'accord. Voilà, et vous découvrirez où elles ont terminé cette dernière échappée. Ça, c'était donc pour la dernière échappée de Léa Frédéval, éditée par Philippe Rey. Le sixième livre est un essai. Pascal est la proposition chrétienne de Pierre Manant aux éditions Grasset et qui vient de recevoir le Grand Prix catholique littérature essai 2023. Pierre Manant est vraiment un grand philosophe actuel. 426 pages sur la grandeur de l'âme humaine. Oui, 4 siècles après sa naissance, Blaise Pascal reste l'une des plus grandes figures du génie français. Selon Pierre Manant, la clé laissée par Pascal, c'est la grâce. La grâce, la paix et l'unité véritable ne peuvent être fondées qu'en Dieu. Cela nous concerne vraiment aujourd'hui, par la médiation du Christ. Confondre christianisme et humanitarisme, c'est oublier la médiation du Christ. Pour Pascal, c'est capital. Ce qui est difficile pour l'Église, ce qu'il a toujours été, c'est de faire sentir le besoin, la nécessité, l'urgence de cette médiation, d'expliquer aux hommes qu'ils ont besoin de Dieu alors qu'ils se sont organisés pour s'en passer avec le règne de l'homme. Matérialiste, un règne de l'homme matérialiste. La vie chrétienne, pour Pascal, est une vie distincte, avec ses principes propres exclusifs, son sens et sa forme, sa teneur intime, sont déterminés par son caractère chrétien. Être chrétien ne consiste pas en une disposition affective, prompte à reconnaître et à faire valoir la ressemblance humaine. Cela, c'est de la religiosité démocratique, si puissante parmi nous. la vie chrétienne est une vie nouvelle à laquelle on accède par une conversion, c'est-à-dire un changement d'orientation, de direction et de toutes les puissances de l'âme. L'âme. Le chrétien participe activement à la société dont il est membre et il en respecte les règles, mais il puise ailleurs que dans la société les motifs les plus profonds de sa conduite. La raison elle-même, bien conduite, apprend à reconnaître ses limites. La raison, comme faculté de jugement, apprend à reconnaître les limites de la raison comme instrument de la connaissance. La connaissance, voilà. Et cette connaissance commence par Dieu. Il faut commencer par Dieu. S'attacher réellement à Dieu. L'homme est malade. Et Dieu seul peut le guérir, mais l'homme d'aujourd'hui a tendance à ne pas le savoir ou à l'ignorer ou à faire semblant de ne pas être malade. Il n'y a que les vieux qui sont malades. En EHPAD, mais non, 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 l'homme est malade et Dieu seul peut le guérir. Ces deux grands faits échappent à la raison, même à la raison des philosophes, qui, nous le voyons dans cette étude minutieuse, longue et très attentive, dans ce livre, ils ont ignoré, les philosophes, ils ont ignoré et le mal et le remède, parce qu'ils sont passés au-delà de ça. Parce que la maladie est enracinée plus profond et le remède vient de plus haut, qu'aucune faculté humaine n'est capable de l'appréhender. Voilà, je pose vraiment, je ne pouvais pas tout dire de ce grand roman, de ce grand livre, Pascal et la proposition chrétienne de Pierre Manant, qui est un livre épais et que j'ai lu avec grande attention. Dieu guérit en moi une injustice que j'ignore ou dont j'ignore le fond par un remède qui est au-delà de toute justice ou bonté. Que je puisse concevoir toute la foi, que je puisse concevoir. Voilà. On est dépassé par les événements, par la grandeur de l'âme. Toute la foi consiste en Jésus-Christ et en Adam. Et toute la morale en concupiscence, parce que le monde est fait de concupiscence, de satisfaction plus ou moins vaine pour oublier toute morale en concupiscence et en grâce, la grâce qui élève. Je m'arrête là, à vous de méditer ce grand livre. Et je vais m'arrêter, parce que je pourrais parler pendant des heures de Blaise Pascal. J'avais commencé à le faire en début d'année, parce que j'avais reçu un livre sur Jacqueline, la sœur, l'une des sœurs de Blaise Pascal. Il avait deux sœurs, une qui est devenue religieuse et qui s'est beaucoup occupée du jeune Blaise, puisque la mère était morte. Il y avait bien le père, qui était très très bien, un grand personnage. qui avait considéré son jeune fils Blaise comme un grand esprit, voilà, un grand scientifique. Et c'est vrai que j'avais eu envie de redécouvrir Blaise Pascal dès le mois de janvier, l'apparition de ce livre. J'ai lu d'autres livres par un certain Grasset sur les chroniques de Blaise Pascal. Et puis voilà, par Pierre Manant, Pascal et la proposition chrétienne, qu'il nous propose aujourd'hui. L'œuvre de Pascal est l'objet d'une très riche tradition critique. J'ai pour ma part seulement cherché l'aide et l'appui de cet auteur pour retrouver les termes exacts et ressaisir la gravité et l'urgence de la question chrétienne. Celle de la foi chrétienne, de la possibilité de la foi chrétienne, voilà. Entre le possible et le probable, y a-t-il quelques détours ou artifices à employer la force du plus fort que soi pour poser la question la plus personnelle? C'est en tout cas cette question qui est l'objet de ce livre important, Blaise Pascal, la proposition chrétienne de Pierre Manant, qui vient de paraître chez Grasset. C'est au mille-temps du XVIIe siècle que la décision a été prise de construire l'État souverain. C'est à ce moment que fut repensé par Blaise Pascal ce que j'appelle la proposition chrétienne, entendant par là l'ensemble lié des dogmes ou mystères chrétiens offerts à la considération de notre entendement et au consentement de notre volonté. Voilà, la volonté. Proposition n'a pas ici qu'un sens logique ou notionnel, mais pratique et actif. Il s'agit d'un acte dont l'auteur est Dieu dans son Église. Voilà. Et je m'arrête là-dessus. Voilà, donc vous avez de quoi faire pour lire, pour partir en vacances ou rester à l'ombre du soleil. Les disparus de Blackmore de Henri Lovenbruck chez Ixo. Sur la dalle de Fred Vargas chez Flammarion, Peter May, Un chemin sans pardon au Rouergue, La dernière échappée de Léa Frédéval chez Philippe Ray, et Pascal et la proposition chrétienne de Pierre Manant chez Grasset. Voilà, bonnes vacances et au revoir et à bientôt à la rentrée, si vous le voulez. Au revoir. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.